Voilà. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Géraldine Roux et j'interviens ici dans le cadre donc de ce DU éthique de la responsabilité. Je suis enseignante de philosophie. J'ai fait mon doctorat à Strasbourg sur Maïmonides. Et donc j'ai publié une thèse il y a quelques années qui s'appelle « Du prophète au savant, l'horizon du savoir chez Maïmonides ». Et là, dernièrement, au mois de janvier, est sorti un petit livre de présentation de la vie et de l'œuvre de Maïmonides qui s'appelle « Maïmonides ou la nostalgie de la sagesse ». Donc c'est vraiment un tout petit bouquin, il n'est pas cher et il est aux éditions du Seuil. Oui, c'est important. Hein.
Il est très bien.
Ah, il est très bien, c'est gentil. Et en même temps, je dirige l'Institut Rachi à Troyes, donc qui est un institut un peu similaire à l'Institut Lévinas, et avec qui d'ailleurs nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. Donc je suis très heureuse de venir à ce DU. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu donc d'une lettre de Maïmonides qui s'appelle l'Épître sur la persécution. Igeret à Igaïon. Alors, petite question, est-ce que vous connaissez un peu l'hébreu? Est-ce que vous connaissez quelque chose du judaïsme ou est-ce que c'est vraiment terre vierge?
Personnellement, je suis en master d'hébreu à l'INALCO.
Ah bah tout va bien.
Et j'ai étudié Maïmonides 2 années de suite avec monsieur Guetta.
Ah oui, bien sûr, Alessandro Guetta.
Voilà.
D'accord. Ah bah c'est très bien, donc oui, il y a déjà de bonnes bases.
C'est pas une terre vierge.
D'accord. Et vous, monsieur?
Moi, je suis juif et j'ai pris quelques cours d'hébreu et puis bon, je lis un peu la Torah.
D'accord.
Des égarés, j'ai une version, l'édition du Cerf, je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça, les éditions du Cerf.
C'est ça. Le guide des égarés, c'est aux éditions...
Non, c'est... Oui,
c'est... Il y a Maisonneuve, voilà. Verdier, c'est ça. Il y a Maisonneuve La Rose et puis maintenant, c'est chez Verdier, il a été repris.
Oui, elle est très belle. Enfin, moi, je trouve très bien cette édition.
Oui.
Moi, je ne parle pas hébreu, mais vous allez m'expliquer, ça ne fait rien. Si je suis là,
c'est... Donc, vous ne parlez pas hébreu, c'est très bien. Comme ça, au moins, on va pouvoir faire un melting pot, c'est très, très bien. Donc, Maïmonides, ce n'est pas la peine que je vous redise ses dates, tout ça, vous savez tout, en fait, sur la biographie, sa vie. Parce que là, c'est moins l'aspect philosophe de Maïmonides que l'on va étudier, même si il transparaît dans cette lettre, que vraiment l'aspect citoyen, je dirais, qui est membre de la communauté juive. Donc c'est une lettre assez particulière, donc qui exige quand même d'avoir quelques notions de qui était Maïmonides et un peu sa vie avant. Est-ce que on refait un petit point rapide ou est-ce que on peut y aller directement?
Un petit point rapide, mais il s'est converti à l'islam.
Alors c'est justement, on va en parler, ce sera un des objets de cette intervention. Donc, ce que je vous propose peut-être, comme on n'est pas, il n'y a pas une foule immense, on va peut-être, faire un peu interactif. Donc, il ne va pas y avoir une heure et demie de parole pure, et puis après une demi-heure de questions, mais on va, n'hésitez pas à lever la main, m'interrompre, ce ne sera pas une discussion, mais enfin voilà, que ce soit un peu interactif. Et ça rend des fois les choses un peu plus vivantes. Donc voilà, ce que je compte faire en fait pendant cette heure et demie, ce sera premièrement donc présenter rapidement la vie de Maïmonides, présenter sa lettre qu'on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas non plus le contexte historique et de la première lettre qui avait été écrite par son propre père. Et ça c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Et qui était ce rabbin non identifié auquel Maïmonides s'oppose dans sa lettre sur la persécution et qui va devenir son grand ennemi et qui va devenir son alter ego, jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, tout au moins jusqu'à la fin des jours de ce personnage. Donc c'est assez intéressant parce qu'il faut vraiment lire cette lettre. Uniquement comme une œuvre alarique, ça va. Il ne faut pas la lire uniquement comme une œuvre alarique, mais également comme une lettre personnelle, parce que c'est un engagement personnel de Maïmonides, personne ne lui a rien demandé, et contre quelqu'un qui représente une autorité qu'il va avoir de cesse toute sa vie de vouloir disons, si ce n'est réformer, voire même peut-être démolir. Donc ça, c'est aussi un autre aspect assez intéressant. Donc on va voir dans quel contexte donc, il a écrit cette lettre. Je vous rappellerai ensuite, en gros, quelles sont les deux œuvres majeures de Maïmonide. Là aussi, ça ne peut que nous aider à mieux comprendre cette lettre, qui est une lettre de jeunesse hein, qu'il a écrite au Maroc, et donc assez éloignée de ses œuvres qu'il va publier plus tard. Et depuis ce rappel, essayer de voir, un, la forme littéraire de la lettre sur la persécution, et les cinq ingrédients qu'il propose de constituer pour produire un collyre, pour guérir les yeux de sa communauté du regard malade, dit-il, de ce rabbin. Non identifié, bien évidemment. Mais on pourra l'identifier, c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, disons, en gros, les grands points que nous allons aborder ce soir. Alors tout d'abord, la vie de Maïmonide. Bon, Maïmonide ou Rambam est né en 1138 à Cordoue. Alors là aussi, pendant longtemps, souvent, même encore de nos jours, j'entends des fois même certains collègues dire qu'il est né en 1135. C'est parce qu'en fait, on s'appuie sur les dires de son petit-fils. Mais Maïmonide, dans son colophon, à son commentaire de la Mishnah, date précisément ce commentaire de... par rapport à l'année de sa naissance, qui est 1138. Donc, Maïmonide lui-même prouve que, voilà, il est né en 1138 à Cordoue. Il est mort à Fausta en 1204. Et il a passé une grande partie toute sa jeunesse et une partie de sa vie d'adulte à fuir les persécutions, et notamment les persécutions almohades. Il partira en Eretz Israël, il ne restera que quelques mois pour ensuite appareiller en Égypte, où il passera le reste de ses jours en Égypte à la cour de Saladin, et il était rabbin, philosophe, médecin notamment à la cour de Saladin. Et astronome, enfin bon, il était, c'était, à l'époque, on était, les gens étaient complets, hein, c'est moins spécialisé que nous ne le sommes de nos jours. Et alors, bon, je vais insister un tout petit peu sur ses années de formation, c'est-à-dire sur sa jeunesse, puisque, en fait, il est né en 1138, à une époque quand même bien particulière, c'est-à-dire au moment de... Enfin, souvent, quand on pense à l'Andalousie, on pense à l'âge d'or andalou, et avec les grandes avancées architecturales, etc., du temps des Omeyyades, et surtout des écoles juives prestigieuses qui prenaient également pour modèle les écoles arabes, enfin, c'est-à-dire de langue arabe, de leurs compatriotes musulmans. Donc il y avait une certaine interaction entre juifs et musulmans. Alors, interaction, je ne dis pas pacifiée, mais il y avait une réelle cohabitation. On appelle cela la convivencia. Qui va voir apparaître des écoles musulmanes qui intégreront les sciences profanes.
Convivencia. Je pensais que c'était
convivencia,
mais...
Vous pensez que c'était convivencia? Vencia. Vencia, oui.
Et vous avez écrit nen. Enfin, je lis...
Ah oui, oui, merci. Oui, c'est une faute de frappe. Convivencia, voilà.
D'accord.
Merci beaucoup. Donc, donc, il va y avoir en fait de grandes écoles qui vont naître, intégrant la philosophie, les arts libéraux, et surtout une réforme de la langue arabe. C'est-à-dire, c'est ce moment précis en fait où on va continuer à structurer l'arabe, qui est la langue officielle en fait de tout le bassin méditerranéen. à trouver sa morphologie, les structures grammaticales, etc. Et les savants juifs vont faire exactement la même chose au niveau en fait, de l'hébreu. C'est-à-dire on va sortir l'hébreu de l'aspect purement liturgique et l'étudier depuis, depuis sa forme grammaticale. C'est à ce moment-là que va naître la philologie. Et c'est la raison pour laquelle aussi, bien plus tard, Maïmonide écrira des lettres en hébreu et son Mishneh Torah en hébreu. Donc ça, c'est un moment vraiment une période de grande créativité, de grande effervescence.
Et pardon, quels sont les œuvres qu'il a écrites en arabe alors ?
Alors attendez, je vais y venir. Là, on en est à l'âge d'or andalou que son père a vécu. Et si j'en parle autant, c'est parce que son père a été formé à l'école de Lucena. Son père, Maïmonide, était juge rabbinique. Et il a été formé, il a eu la possibilité de suivre des cours. Maïmonide, lui, va vivre comme une tragédie le fait que de son temps, eh bien, toutes les écoles ont fermé pour une bonne raison, c'est que les Omeyyades étaient depuis très longtemps disparus. Les Almoravides eux-mêmes ont été remplacés par les Almohades qui ont envahi l'Andalousie du Sud. Et donc, sous leur règne, évidemment, les écoles ont fermé les unes après les autres. Alors, juste peut-être quelques mots. Est-ce que vous savez, en fait, en quoi consiste le mouvement Almohade ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que...
Mais c'est quelque chose d'un peu vague.
Oui, parce que
ça gagnerait à être précisé.
Oui, il y a pris 5-3 ans.
Moi, je l'ai lu dans le film.
C'est bien, bon, c'est bien. Vous avez de bonnes lectures, quand même.
Alors, si on enlève les jugements moraux qui peuvent s'attacher, c'est un peu un mouvement d'intégrisme islamique, ouais. Je pense.
Oui, c'est ça.
On peut le définir comme ça.
C'est ça. Alors,
et je pense qu'ils viennent du Maroc. Il y a un souvenir que ça commence au Maroc et que ça gagne ensuite l'Andalousie. C'est pas
loin. Alors, en fait, il faut savoir que donc, les Omeyyades, l'Empire Omeyyade s'est disloqué en de multiples principautés qui se faisaient la guerre les unes aux autres. Et les Almoravides les ont remplacés, qui eux en fait étaient assez rigoristes, mais d'influence sunnite, comme d'ailleurs ça va se propager dans tout le bassin méditerranéen. Les Almohades, c'est assez particulier. C'est-à-dire en fait que le mouvement a été fondé par un certain Ibn Toumar. Alors, Ibn Toumar, en fait, là, il a commencé à sévir, si on peut dire, vers aux alentours de 1120. Et en fait, il était un Mahdi autoproclamé. Donc, un Mahdi, c'est très intéressant. Alors, lui, il a suivi des études en Iran. C'est passionnant. Moi, je trouve, vous avez vu, même de nos jours, géopolitique, c'est passionnant, parce qu'il a suivi ses études en Iran. Enfin, ce qui est devenu maintenant l'Iran, et il s'est autoproclamé Mahdi, c'est-à-dire l'imam parfait. C'est-à-dire, en fait, l'imam qu'on attend, quoi. Je veux dire, le Messie, c'est la fin des temps. Alors, c'est toujours facile, hein, quand on s'autoproclame comme tel. Hein, mais en même temps, en fait, ce que deviendront plus tard les Mollahs, il y a quelque chose aussi de... Mais là, il n'y a évidemment pas de reconnaissance par ses pairs. C'est lui-même, en fait, qui apprend en Iran... qui exporte ce qu'il a appris en Iran, il l'exporte au Maroc, et plutôt il l'importe. Il l'importe au Maroc, et s'autoproclame Mahdi, et va fonder une nouvelle théologie, et aussi un système juridique tout à fait différent, et du système sunnite, et du système chiite. Oui, donc il invente en fait tout un nouveau système depuis sa propre lecture du Coran qu'il peut lire en direct puisque lui-même se dit prophète, donc ce qui arrange bien les choses.
Mais sa formation en Iran avait été plus influencé par le chiisme, justement.
Ah, du coup, oui. Mmh. Mais un chiisme qui l'a complètement dévié. Alors, moi, je trouve que c'est passionnant. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va, commencer, en fait, à prêcher de manière très rigoriste. Alors, évidemment, vous savez que, normalement, le Messie arrive toujours au moment où ça va le plus mal, où tout est foutu, où tout est... Donc, il met en scène sa propre arrivée en allant prêcher dans les villages et en disant que les mœurs se sont relâchées et donc il faut en revenir à un rigorisme. Et sous l'Empire almohade, les femmes, à la différence des Almoravides, qui acceptaient les femmes dans certaines fonctions, là, les femmes sont complètement rejetées, remises à l'écart, elles sont de nouveau confinées dans les harems. Et la première chose qu'il va faire, ce sera de briser tous les instruments de musique, partout où il passera, et briser toute image. En disant que de toute façon, quelle que soit l'image que l'on peut, une image mettant en scène un être vivant est un blasphème, parce que on ne peut représenter ce qui est représentable, et y compris évidemment le prophète et Dieu. Donc il y a un côté, si je peux me permettre ce rapport un peu, un côté iconoclaste chez dans le mouvement almohade. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser de nos jours, ce que l'on vit avec al-Baghdadi, qui lui-même, en fait, n'est ni chiite, ni sunnite. Il s'est autoproclamé prophète et n'obéit ni, en fait, à aucune des deux influences. Et quand on entend souvent des musulmans dire « mais de toute façon, il n'est pas musulman », il faut le prendre aussi au sérieux. Alors après, bon, après, il y a tous les problèmes politiques, idéologiques, tout ce qu'on veut, mais il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire, effectivement, de la même façon qu'Ibn Toumar n'était ni chiite, ni sunnite. Et il a voulu construire un califat uniquement basé sur de l'invasion, sans nécessairement consolider véritablement ses terres. Souvent, quand on entend à la télé ou à la radio que al-Baghdadi veut reconstruire le califat, c'est évidemment pas le califat de Saladin, mais effectivement, il a une influence. Ce qu'il veut faire, c'est reproduire ce qu'ont fait les Almohades. Je pense que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas vraiment non plus la question géopolitique qui se pose aussi de nos jours.
Excuse-moi, il est originaire de quel pays ?
Du Maroc.
Maroc. C'est pour ça qu'il l'importe.
C'est pour ça qu'il l'importe, c'est ça.
Il était marocain, il est parti étudier en Iran et il revient au Maroc.
C'est tout à fait ça.
Oui, c'est ça. En ayant réformé, en fait. En ayant réformé ce qu'il a appris aussi.
Pour lui, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il va réformer la religion depuis ce qu'il a appris. Et la réforme, évidemment, on passe par lui. Alors, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est ce qu'on va lire dans la lettre de Maïmonide, le miroir inversé de ce que fait Maïmonide, mais sur des bases très semblables. En tout cas, il faut retenir que pour Ibn Toumar, refus de l'image. En fait, toutes les images du Coran doivent être interprétées comme précisément des images et non pas du réel. Et donc, ce qui nous pousse à ne rien en dire. Parce que ce sont des images de ce qui est irreprésentable.
Vous voulez dire là les images au sens rhétorique, les métaphores ?
Absolument. D'accord. Les métaphores au sens rhétorique du Coran doivent être interprétés comme des images, c'est-à-dire des représentations de ce qui est irreprésentable, donc on ne peut rien en dire. Et c'est pour cela que, de fait, il brise toute image.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, il les brise dans le langage, c'est-à-dire il les brise dans le...
Dans tous les sens, il les brise dans le langage et dans la vie de tous les jours, puisqu'il va faire la même chose en brisant tout ce qui est représentation picturale ou musicale.
C'est-à-dire qu'il brise non seulement les images, si je puis dire, réelles, mais aussi, enfin, matérielles, mais aussi les images mentales.
Absolument.
Voilà, le but c'est de briser aussi les images à l'intérieur de la tête des lecteurs du Coran.
C'est tout à fait ça, absolument. Donc, c'est d'autant plus intéressant que, si j'insiste autant, c'est surtout parce qu'il y a une thèse actuelle qui présente Maïmonide comme secrètement amoureux des Almohades et qui a reproduit cette manière de faire Almohade dans le judaïsme.
Inversé.
Non, qui reproduit, qui serait secrètement Almohade.
Oui, parce que...
Ah, un infiltré.
Oui, c'est ça. Oui, absolument.
Parce que le guide des égarés voilà. explique, finalement, toutes les... déconstruit les métaphores employées par la Bible.
Oui,
mais... De manière à
en leur donnant une fonction, quand même.
Mais elle, voilà. Alors, voilà. La différence, c'est que chez Maïmonide, il y a un apophatisme. Dans le sens où on ne peut pas, il y a de l'indicible, mais depuis cet indicible, un silence fondateur qui va permettre la créativité du langage et donc la multiplication des registres. À la différence précisément des almohades, qui eux vont refermer le sens et du coup on ne peut plus rien en dire.
Donc, tout ça étant métaphorique aussi, parce que...
Tout ça étant métaphorique aussi,
parce que le silence
absolument.
Qui permet
oui, c'est
la
ça.
Création, c'est quand même métaphorique.
Ouais. C'est ça, mais sauf qu'il y a une... On prend en compte, chez Maïmonide, il y a une considération de la métaphore. Qui n'est pas prise en considération, à mon sens, chez les almohades, qui, eux, vont dire on ne peut rien dire de ces images qui, de toute façon, existent, mais dont le sens nous échappe.
Oui, c'est ça.
Et donc, on ne peut plus rien en dire.
Et d'ailleurs, Maïmonide utilise lui-même des images.
Mais bien évidemment.
Pour s'expliquer.
Mais bien évidemment.
C'est ça. Moi, j'avais cru que c'était plutôt, en fait, au contraire, d'instituer la fonction de la métaphore à l'intérieur de la pensée logique.
Oui, c'est ce que fait Maïmonide.
Oui, donc comme c'est quand même l'inverse de ce que... Non, c'est pas l'inverse
ben,
de ce que
oui et non, parce que...
Dans la mesure où l'autre...
Dans la mesure où l'autre,
exclut,
en fait...
Exclut...
Mais tous les deux considèrent la métaphore, mais l'un pour dire c'est une métaphore qui pointe vers « on ne peut rien en dire », alors que pour Maïmonide, c'est une métaphore silencieuse, parce qu'il y a bien un silence derrière la métaphore, on ne peut rien dire de l'objet même de la métaphore, mais parce qu'on ne peut rien en dire, alors la parole se libère. À la différence, en fait, de Im Tumar, qui veut dire, parce qu'on ne peut rien en dire,
il faut se taire.
Oui, mais alors, il y en a un qui en fait un silence fondateur et l'autre qui en fait un silence clôtureur. Si
c'est tout
dire.
À fait ça.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pour ça que je trouve que cette thèse de Oxford, qui veut absolument prouver qu'au fond, Maïmonide était amoureux des almohades, je trouve que c'est une manière, en fait, de faire comme si Maïmonide aimait ses bourreaux pour déprécier, en fait, le guide des perplexes qui effectivement va avoir quelque chose de semblable, c'est-à-dire de réformer la tradition. Sauf qu'il y a une réforme qui va en passer par une réforme ouverte, alors que l'autre, c'est une réforme briseuse de pierre. Maïmonide n'a jamais, a priori, sauf peut-être un jour s'il était en colère, mais a priori, il n'a jamais cassé, quoi, je veux dire, de quoi que ce soit. Donc, mais ça, je trouve que c'est très important, parce que, voilà, si vous voulez approfondir, vous allez tomber sur la thèse de Sarah Strunsa, qui est un très grand chercheur, hein, et qui, ces temps-ci, en fait, de manière assez provocatrice, mais quand même, veut absolument prouver que, voilà, l'influence de Maïmonide, finalement, c'est les Almohades. Alors qu'il est, il a été persécuté pendant plus d'une vingtaine d'années par ces gens.
Oui.
Donc, soit il souffre d'un complexe de... Comment on appelle ça, le complexe de...
De Stockholm.
De Stockholm, hein, c'est ça. Hein. Donc, soit il a le syndrome de Stockholm, soit c'est autre chose. Bon, moi, mon hypothèse, c'est plutôt que c'est autre chose, mais voilà. Donc,
mais c'est le problème fondamental, je pense, c'est un des problèmes fondamentaux de la philosophie du langage, c'est-à-dire que le langage ne peut jamais dire exactement, mais à partir de là, est-ce que... effectivement tout le reste est silence ou bien est-ce que justement parce qu'il ne peut rien dire et c'est très net dans la littérature juive on n'arrête pas de commenter et de réexpliquer et de créer à partir de
c'est ça. Depuis ce silence fondateur.
Voilà.
Et parce qu'il y a un désemboîtement.
Parce que la parole n'est jamais vraiment adéquate, on ne peut jamais s'arrêter de parler.
Voilà.
On ne peut jamais s'arrêter de s'expliquer.
Et donc Maïmonide, en fait, est tout à fait... Enfin, il est dans cette perspective-là, sauf que pour lui, il vit un drame absolu, qui est la fermeture donc, des écoles d'Andalousie, des écoles juives d'Andalousie, parce que évidemment, vous comprenez bien qu'avec ce type de pensée almohade, il y a une fermeture de l'islam et la convivencia, c'est terminé. Quoi, je veux dire, c'est et donc toutes les écoles vont fermer. C'est le père de Maïmonide qui va former les deux frères, Maïmonide et David, et il va les former comme il pourra. À cette méthode andalouse d'ouverture du sens. qui pourtant en fait n'existe plus faute d'école capable d'être d'être porteuse.
Est-ce qu'on peut interrompre au fur et à mesure?
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr.
Alors, non, la question, c'était dans cette réforme de l'hébreu dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que le statut des métaphores était pris en compte? Est-ce qu'il y avait...
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est ça. Il y avait bien, en fait, le statut de la métaphore qui était pris en compte. Et tout se jouait entre le rapport entre la métaphore et l'homonymie. La métaphore ouvre à l'image... que l'homonymie va disjoindre en disant c'est le même mot, mais pour dire des fois des sens complètement différents. Et si vous voulez, en fait, on vivait en Andalousie dans le jardin de la métaphore. Je pense à des gens comme par exemple Abraham Ibn Ezra, par exemple. Je vous le marque au tableau. Ou quelques années avant Maïmonide, Yehuda Halevi, qui a écrit de magnifiques diwan, et Salomon Ingabirol. Et pour Maïmonide, le drame, c'est que ça s'est arrêté net. À cause précisément des Almohades qui non seulement ont fermé les écoles juives, mais n'ont donné de choix de vie que la conversion ou la mort. Donc, avec un tel choix, forcément, ils ont dû errer pendant plusieurs années en Andalousie. Alors, on trouve des traces de Maïmonide à Séville. On sait, il dit explicitement hein, dans le guide des perplexes, je vous dirai pourquoi perplexe, mais il dit explicitement dans le guide des perplexes qu'il a étudié dans des cercles philosophiques, il a étudié l'astronomie de Imbaja, qui est connu en latin sous le nom de Aven Pace.
Après, je photographierai.
D'accord. et son père, on ne sait pas trop si c'est en 1159 ou en 1160, mais son père va décider en fait de partir de l'Andalousie parce que les conditions deviennent impossibles. Donc à ce moment-là, c'est précisément au moment où il décide de quitter l'Andalousie qu'il va écrire, donc le père de Maïmonide, donc Maïmon. Va écrire sa lettre de la consolation, où il présente la Torah comme une corde de salut. Alors c'est très très intéressant. Pour lui, en fait, il faut impérativement s'encorder à la Torah, précisément pour ne pas tomber dans l'abîme. Alors c'est il utilise de très belles métaphores, on sait maintenant de qui tient son fils. Et c'est pas dans le vide, c'est le fait de tomber dans l'eau. Il dit comment faire pour ne pas se noyer? Eh bien, il faut être encordé à quelque chose de fixe, à un point fixe qu'est la Torah. Donc, une fois qu'on y est encordé, eh bien, on peut revenir sur la terre ferme et ne pas finir noyé comme tous ces gens qui, pour lui, en fait, la métaphore de la noyade, c'est la métaphore du fanatisme. Pour lui, il voit tous ces gens en train de se noyer dans leur fanatisme aveugle et il dit surtout, nous, les Juifs, nous n'allons pas céder nous-mêmes à ce fanatisme. Il faut ni céder évidemment au désespoir. Et donc le seul moyen, c'est de s'accrocher à la Torah en ces temps de persécution, même par un fil ténu, hein, c'est-à-dire la pratique secrète, même d'un petit nombre de commandements, c'est encore mieux que rien. Et pourquoi? Parce que c'est source d'apaisement, bien plus qu'une conversion forcée et pleine et entière qui ne plongerait celui qui se convertit à l'islam que dans les tourments de l'islam, sans plus aucune racine auquel s'accrocher. Donc c'est là, en fait, la teneur globale de la lettre du père de Maïmonide.
On la possède, cette lettre? On a le texte?
Oui, elle a été conservée en hébreu. Je me demande si l'original, c'est peut-être à l'université, je crois que c'est qu'elle est conservée à Tel Aviv.
D'accord. Et elle n'a pas été publiée?
Elle est imprimée, mais en hébreu. Elle n'a pas été traduite en français.
D'accord.
Donc, il faudrait voir. Il faudrait voir la BNF, s'il n'y aurait pas d'ailleurs un exemple. Ça, hein.
Oui, c'est ça. C'est là que vous travaillez. Oui.
Oui. Oui. Ça va. Je peux me noyer, mais dans le savoir.
Ah, des fois, ça peut être dangereux aussi.
Oui, c'est la bibliothèque de Babel.
Je n'y vais jamais sans ma corde.
Ah, mais c'est parfait. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, il écrit cette lettre. Avant de partir, c'est très intéressant, parce que lui va écrire sa lettre. Avant de partir d'Andalousie, c'est comme une lettre d'adieu au pays, en fait, qu'il fait. C'est assez déchirant en même temps. Et Maïmonide fera la même chose 5 ans plus tard, en écrivant sa propre lettre, donc l'épître sur la persécution, qu'il publiera en 1165, c'est-à-dire au moment de son départ pour Eretz Israël, donc de son départ du Maroc. Donc le père écrit une lettre d'adieu à l'Andalousie, et Maïmonide, 5 ans plus tard, va écrire sa propre lettre d'adieu au Maroc. Donc il y a bien un jeu de miroir assez intéressant hein, de l'un à l'autre. Et donc, il décide de, donc le père de Maïmonide décide de partir d'Andalousie entre 59 et 60 pour partir au Maroc. Alors là, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant parce que pour fuir les Almohades, il se réfugie dans le fief Almohade pour partir à Fès. On se demande un peu pourquoi. Beaucoup de Juifs, par exemple, vont partir en terre chrétienne, du côté de Lunel, du côté de en pays d'Oc. Oui.
J'avais lu un livre, c'est de Michel Abitbol sur l'origine de la discorde. Il expliquait que Fès, à un moment donné, il paraît qu'il y a un érudit musulman qui a dit qu'à Fès, il n'avait vu aucun être humain.
Qu'il n'avait vu aucun être humain à Fès.
Oui, oui.
Ça peut être Al-Razali, peut-être, non, qui avait dû dire ça.
J'ai envie peut-être lui amener le bouquin de Michel Abitbol, mais. Ça voulait dire qu'il n'y avait pratiquement que des juifs, quoi, en résumé.
Ah oui.
Et qu'il n'y avait aucun musulman. Enfin, parce qu'il paraît que Fès, c'était une ville.
Mais c'était à quelle époque ? Quelle année ?
C'est dans cette période-là.
Mais des fois, à 30 ans près, tout basculait.
Parce qu'il disait que Fès avait été fondée par les juifs.
Oui, tout à fait.
Et donc,
mais ce qui était intéressant, là, dans ce qui s'est passé ici, c'est qu'en fait, à Fès, lorsque le père de Maïmonide décide de partir à Fès, c'est parce qu'elle est gouvernée par un calife qui s'appelle Abd al-Moumin.
Je marque aussi au tableau.
Ça fait partie des arguments de Sarah Stromza, non ?
Oh, oui.
Oui, c'est ça.
Ah, complètement.
Ouais.
Évidemment, ça fait partie des arguments de Sarah Stromza.
Ouais.
Il est parti rejoindre, en fait, c'est vrai qu'Abd al-Moumin était un calife qui permettait une sorte de cohabitation. Ouais. En fait, il était, parce que Ibn Toumar était, si vous voulez, l'idéologue du mouvement almohade, mais il y avait un chef politique qui était Abd al-Moumin. Donc, c'était une sorte de tête bicéphale et il permettait en fait une vie, disons, possible pour les Juifs qui effectivement étaient très nombreux au Maroc. Donc, c'est peut-être pour ça en fait que le père de Maïmonide a décidé de partir au Maroc en se disant que sur place, comme il n'est plus dans une politique d'invasion mais de consolidation du territoire, il s'est dit que ce serait un peu plus facile de vivre au Maroc. Et le problème, c'est qu'Abd al-Moumin va mourir très rapidement. Il va être remplacé par son fils, qui va imposer un régime de terreur et vouloir, en fait, consolider coûte que coûte l'œuvre de son père. Et alors, ça va être terrible parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle... ça va être vraiment... Oui. En 1162... Attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. En 1162, il va y avoir ce qu'on appelle la révolte des Juifs de Grenade. Et qui vont, le gouvernement est tellement rude et fermé que du coup les Juifs de Grenade vont se révolter et la révolte va être réprimée dans le sang et tout le monde sera massacré. Donc ce sera un gros massacre et qui va marquer très fortement Maïmonide et toute la communauté évidemment marocaine. Et là c'est la fin en fait de la paix à peu près, enfin, de ce temps de pseudo-paix. Et les brimades et les persécutions vont être de plus en plus violentes. Et c'est dans ce contexte-là que Maïmonide va rédiger sa lettre, donc l'Épître sur la persécution. Alors pourquoi cette lettre ? Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, personne ne lui a rien demandé. C'est très étonnant. Mais ce que l'on sait, ce qu'on peut reprendre depuis sa lettre, ce qu'il dit au début de sa lettre, c'est que les communautés du Maroc étaient très ennuyées parce que le gouvernement almohade devenait de plus en plus inquiétant, de plus en plus... Est-ce que c'est pour nous ?
Vous cherchez la conférence ?
Oui, bonsoir, c'est ici ?
Oui.
Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver. Ah ouais. J'ai tourné.
Voilà. Bonsoir.
C'est le livre.
Le livre.
Sur Maïmonide.
Oui, tout à fait.
Ouais, excusez-moi, c'est joué le livre qui est là.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi, je suis désolée, j'arrive un peu en décalé, mais j'ai tourné.
Il n'y a pas de souci.
J'ai pas fait mes études ici dans cette fac, mais bon.
D'accord. Vous êtes étudiante ou vous êtes...
Non, ça y est, j'ai fini.
Vous avez fini, d'accord.
Vous faites partie du DU, non ?
Comment ?
Du DU de d'éthique de la responsabilité, non ?
Ah non, pas du tout. Non, j'aimerais bien en faire un DU, justement.
Ah bah, vous... D'accord, je vous dirai après.
Merci.
Bon, donc... oui, donc en fait, il écrit cette lettre. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, parce que personne ne lui a rien demandé. Ce que l'on sait, en fait, par rapport à ce qu'il dit au début de sa lettre, c'est que il y a eu... Les communautés juives du Maroc ont dépêché un de leurs rabbins, pour écrire ce qu'on appelle en hébreu une She'ela.
Donc une question, une demande, c'est ça ?
Oui, c'est ça, une question. Donc une She'ela, et la question est urgente, hein, c'est-à-dire comment faire si en fait on ne peut plus pratiquer notre judaïsme ? Si on ne peut plus pratiquer les commandements, comment est-ce qu'on peut faire ? Et si on les pratique, bon, si on peut plus les pratiquer du tout, bon, ben ça c'est la catastrophe. Mais même si on ne peut plus que pratiquer que quelques commandements, et si on doit pratiquer en secret et non plus en public, est-ce qu'on est encore juif ? Donc la question n'est pas de savoir si on peut pratiquer ou non, mais est-ce que le fait de pratiquer de manière cachée et non plus des pratiques publiques, est-ce que ça fait d'eux des non-juifs, ou est-ce que la conversion est vraiment réelle au regard de la loi ? Et là, ils envoient leur question à une autorité centrale, qui est l'autorité du Gaona. Alors Gaona, je vais vous donner tous les noms, comme ça sera fait. Un Gaon, c'est le titre en fait de la personne en fait qui a cette charge, qui a cette fonction, et au pluriel, ça nous donne les guéonimes.
Les guéonimes dans le sens de quoi ? Dans le sens prodige ?
Attendez.
Ah, pardon.
Voilà. Non, pas du tout dans le sens prodige. En fait, c'est très très précis. Est-ce que vous savez un peu ce qu'est un... Le gaona, ça vous dit quelque chose ?
Oui. Enfin,
gaon, oui. Gaona.
C'est pareil.
En fait, c'est après la fin de la période vraiment des Tanaïm puis des Amoraïm, l'autorité centrale du judaïsme reçoit ce titre de Gaon. Et moi, ça me dit, enfin, je pense qu'un des premiers fut Saadia Gaon, qui fut un des premiers.
Alors en fait, non.
Non,
non, non, non. Non, 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 parce qu'en fait, Saadia Gaon, c'est beaucoup plus tardif, c'est le 10e siècle, Saadia Gaon.
Ah, c'est si tard que ça.
Ah oui, c'est tard, Saadia. Oui.
Ah,
alors, donc voilà. Donc,
je sais que je suis arrivée un petit peu comme ça, lassée sur le gâteau, je vais vous demander d'être redondante, mais juste pour se situer, là, on est à quelle période, juste...
Alors, les dates de Maïmonide, 1138, ouais. 1204.
D'accord.
Donc, et là, on est en 1866.
Et là, ouais. En fait, on est aux alentours de 1162.
D'accord.
1162, au moment de la révolte des Juifs de Grenade.
Ah, oui, c'est ça.
Donc, en 1162, là, ça devient vraiment inquiétant. Enfin, plus qu'inquiétant, hein, toute la communauté de Grenade a été massacrée par les Almohades. Donc, on est face à cette difficulté. Et la difficulté, c'est, est-ce que si on pratique de manière cachée le judaïsme, est-ce que pour autant on reste juif, ou est-ce qu'il faut pratiquer de manière publique ? Et donc cette question, la She'ela, est envoyée à Bagdad. où en fait siègent les Géonim. Alors, le Gaona, en fait, va durer pendant des siècles. C'est-à-dire qu'effectivement, après l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire en gros après le 5e siècle, va naître un courant de commentateurs qui sont eux-mêmes issus d'une très longue tradition, la tradition de Babylone. C'est-à-dire, depuis l'exil, le premier exil, il y a eu des écoles prestigieuses qui sont nées à Babylone, des écoles babyloniennes, et qui ont perduré, qui ont formé des académies, dont les plus célèbres étaient celles de Soura et de Pompédita. Et qui après, très rapidement, en fait, vont se regrouper à Bagdad. Quelle est la méthode principale des Géonim? C'est la jurisprudence. En fait, ce sont surtout ce qu'on appellera plus tard des casuistes. C'est-à-dire, en fait, tout étudier l'ensemble du Talmud, cas par cas, pour essayer de les adapter, en fait, au cas particulier. Donc, on n'est pas du tout dans une méthode ni littéraire, ni... Enfin, là, par exemple, s'il y avait des étudiants du DU... au niveau de la... Non, mais c'est pas grave. Mais il y aurait, en fait, quelque chose d'intéressant au niveau de la littérature comparée.
Oui.
Parce que c'est ça que va instaurer Maïmonide. Il va fonder une sorte de lecture comparée. Torah philosophique. La littérature comparée, c'est complètement étranger aux Géonimes. Ils sont pas du tout des littéraires. Eux, ce sont des juristes. Et donc, tout leur travail consiste à répertorier des cas de jurisprudence et des cas particuliers pour, voilà, les adapter, en fait, à la vie de tous les jours. Et donc, c'est cette méthode qui est la méthode de lecture traditionnelle de la Torah.
Parce que dans le Talmud, c'est un peu ça, le Talmud de Babylone.
Oui.
Babylone, pardon.
Oui, qui est dans le Talmud, c'est comme ça, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est ce que veut montrer Maïmonide. Il y a aussi de cela. C'est s'appuyer principalement sur la Mishnah. Mais si on dit que tout le Talmud, c'est de la jurisprudence, on oublie que tous les Midrashim, on oublie le Midrash. C'est-à-dire, en fait, le Midrash, c'est-à-dire tous ces récits de vie, alors des récits qui sont littéraires, philosophiques, poétiques, etc. Souvent avec beaucoup, beaucoup d'humour en plus. Hein. C'est très drôle, le Midrash. Comment ? Et les Agadot, exactement. Et tout l'aspect un peu mythologique, si on peut dire, de la Torah. Alors eux, le Midrash et les Agadot, c'est un peu mis de côté pour vraiment se consacrer à quoi ? À la survie du judaïsme. Ils ne sont que dans la survie. Oui.
Alors, je vais poser une question à propos de l'expulsion des Juifs d'Angleterre. C'est passé à quelle période ?
Oui, alors là, par contre, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire.
C'est avant ou après
À ma connaissance, c'est quand même plus tard.
Oui, moi aussi, hein, je dirais que c'est beaucoup plus tardif.
Je pense que c'est...
Je dirais 14e, 15e.
Non,
il y a eu une première. Mais là, on s'éloigne peut-être du sujet.
Mais pas avant la fin du 12e siècle,
je pense. Il me semble aussi. En tout cas, là, on est dans le bassin méditerranéen. Donc, on va peut-être y rester.
Non, parce que je sais que par exemple, qu'il y a des... Il y a eu des visites, il y a des courants, enfin des érudits séfarades qui ont rendu visite, par exemple, aux gens de Rouen.
Oui, tout à fait. Mais là, ou à Troyes, bien évidemment, hein, quelqu'un comme Rachi, par exemple, dont Maïmonide ne parle jamais, d'ailleurs, ça c'est très intéressant aussi. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Alors, en tout cas, bon, pour revenir en fait aux Géonimes, donc ils n'étudient que la jurisprudence. Et donc, depuis leur jury... Donc, en fait, si vous voulez, ils prennent tout le Talmud et surtout les commentaires de leurs prédécesseurs qui ont la légitimité du savoir. Le seul le savoir légitime Kasher Bet Din, hein, si vous voulez, c'est l'autorité du Gaona. Donc, si, en fait, un rabbin dans n'importe quelle communauté du monde a une difficulté, s'il a peur de ne pas être assez légitime pour engager une action, il écrit au Gaona... qui lui, en fait, va légitimer depuis les cas de jurisprudence qu'il recense dans le Talmud, il lui envoie sa réponse Kasher Bet Din, qui évidemment est écrite en langue dialectale de l'époque, c'est-à-dire un mélange d'araméen et de babylonien, et évidemment, celui qui est au Maroc, le rabbin au Maroc, est incapable lui-même tout seul de lire cette réponse, et donc, c'est très bien organisé, parce que vous savez en fait que la Torah, on ne peut pas monnayer le savoir de la Torah. Ça doit être désintéressé. Mais par contre, on peut monnayer sa traduction. Et à une petite entreprise qui va se monter comme ça, en fait, qui va être très lucrative, en fait, hein, pour les guéonimes. Des siècles plus tard, au niveau du christianisme, il y aura la même difficulté par rapport à ce qu'on appelle les indulgences. Ouais. Il fallait payer, en fait, pour... Et ben là, c'était un peu pareil. Et donc, bon, il y a cette petite entreprise qui tourne bien, qui est quand même assez insupportable, parce que du coup, on monnaie les réponses qui pourtant sont des fois des questions de survie. Et surtout, il y a une réponse, parce que là, si Maïmonide répond à une réponse, la seule réponse à laquelle il répond dans cette lettre, ça ne peut être que la réponse d'un gaon. Il n'y a qu'un gaon qui peut faire une réponse. Et la réponse, en hébreu, ça s'appelle la teshuva.
Ah ouais?
Oui, c'est intéressant, hein. Mmh. C'est la réparation.
À l'ouverture de la question, quoi.
Comment?
Réparation à l'ouverture de la question, je dis oui.
C'est la réparation à l'ouverture de la question. Ah, c'est joliment dit, ça. Moi, j'aime bien. C'est... Je ne sais pas si c'était un client à nous, mais bon.
Non, c'est une vigile.
D'accord.
Ah oui. Parce qu'à 9h, ils vont venir nous mettre dehors.
Ce que font ces fous à 7h06. Rendez-vous compte à 8h du soir. Donc, et la réponse qui est faite par le Gaon de Bagdad de l'époque ne plaît pas du tout à Maïmonide. C'est ça qu'on va étudier maintenant. Pourquoi sa réponse ne lui plaît pas.
Et c'est laquelle la réponse?
Bah attendez, je vais... c'est précisément de cela dont on va parler maintenant. Non, je vous en prie. Oui, oui, il faut faire attention à ne pas trop anticiper. On appelle ça des spoilers.
C'est parce qu'il y a du suspense.
Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est, Alors, voilà comment Maïmonide va lire la réponse. Donc maintenant, je vous donne tout de suite donc, le nom de ce rabbin. C'est en fait le Gaon de Bagdad. Et c'est la première fois que Maïmonide croise le fer avec lui, et ça continuera jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est très drôle, hein, leurs rapports sont très intéressants. Et donc voilà comment Maïmonide lit cette réponse. Donc je cite, donc c'est dans son épître sur la persécution, donc j'avais aux éditions Verdier. Il y a aussi la collection Tell, mais là j'aime bien, là la traduction, elle est, bon c'est les gens de Ulster. Elle est comme elle est, mais bon, elle est... Voilà, elle est...
Il y a aussi quoi comme autre édition?
Ben, je crois que... Ah, comme autre édition, c'est Tell, Gallimard Tell.
Ah bon? Oui. Mais c'est bien pareil. Traduit aussi?
C'est, ben, de toute façon, c'est le même traducteur.
Ah oui, d'accord.
C'est des traductions du 19e, hein, donc elles datent un peu. Mm. Un jour, il faudrait peut-être les reprendre, mais c'est un travail vraiment colossal, donc voilà.
Les Américains, ils n'ont pas fait de traduction.
Ah si, les Américains en ont fait, mais moi je vous donne la traduction en français, je vous laisse regarder la traduction en anglais. Est-ce que c'est Pinès qui l'a faite? C'est souvent Shlomo Pinès, hein, qui est le traducteur de Maïmonide. Il faut la vérifier. En tout cas, bon, en français, c'est celle-ci. Donc c'est à la page 13 de cette édition Verdier. Donc voilà ce que dit Maïmonide. Je vous laisse juger, hein. Je pense que ça se passe de commentaires. Si un idolâtre brûle son fils et sa fille pour son culte, à plus forte raison devrions-nous nous brûler nous-mêmes pour le service de l'Éternel. Malheur pour la question et malheur pour la réponse. Voilà, donc en gros, il comprend la réponse donc du Gaon de Bagdad comme si en fait vous ne pouvez pas pratiquer publiquement, eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes plus juif. Donc, soit vous êtes excommunié, soit vous mourrez en martyr. Voilà le choix qui est proposé.
Ça veut dire qu'on ne peut pas pratiquer de manière cachée?
Non.
Est-ce non, parce que. Ça équivaudrait à brûler ce qui... un proche.
Ben oui, en fait, parce que si vous rendez-vous compte que si en fait on dit qu'à ces gens de la communauté juive, vous n'avez pas le droit. Enfin, si vous pratiquez de manière cachée, que vous ne pratiquez pas publiquement, dans ce cas-là, vous êtes excommunié, eh bien. Ça les pousse à prendre les armes, à se révolter et à finir comme les Juifs de Grenade.
C'est intéressant parce que il y a eu pas très longtemps avant, au moment de la première croisade,
oui.
C'est-à-dire 1080, enfin la fin du 11e siècle, il y a eu les grands massacres de
Worms,
et Mayence, et il y en a une troisième, Spire.
Spire.
Et où justement, en fait, ils il y a eu non seulement des massacres, mais des suicides de juifs qui ne voulaient pas accepter la conversion forcée. Et donc, ils sont vraiment... c'est pas une discussion...
abstraite, oui, c'est ça. Mais c'est sur Masada ? C'est sur l'idée de Masada, un peu sur le...
Alors, oui, on va parler de Masada après. Mais là, les exemples, c'est ceux... C'est alors, proche, évidemment, bon, Masada, pour dire quelques mots... Hein. Masada, c'est en 66. Masada, ça vous parle ou
oui,
vous
oui, mais je veux bien que.
D'accord. Donc Masada, donc en 66, donc c'est pendant la révolte des Juifs contre les Romains. Donc ouais. un groupe de Juifs, donc qu'on appelle les Sicaires, du parti des Zélotes. Donc les Sicaires du parti des Zélotes vont prendre la garnison romaine de Masada. Donc, il va y avoir... donc, pendant 3 ans, elle va servir de siège. Et eux, ça sera leur base de défense. Et en 72, l'armée romaine de 8000 hommes arrive sur Masada. Et lorsqu'ils pénètrent dans la forteresse, ils découvrent que tout a été brûlé. Et ils découvrent les corps sans vie des sicaires après ce que l'on suppose être un suicide collectif. Et ils ont tout brûlé, hein, je veux dire. C'est-à-dire, c'est la politique de la terre brûlée. Et donc c'est vraiment
un... Donc c'est une référence quand il dit brûler ton fils, brûler ton...
Oui.
C'est une référence à ça.
Bien sûr. Brûle ton fils. Alors c'est la référence au mythe, enfin au culte idolâtre de Baal.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on brûle dans la fournaise les enfants, c'est-à-dire qu'on s'empêche toute possibilité de transmission et puis de perpétuation hein, du nom et de tout ça. Donc c'est évidemment c'est une référence à Baal, qui est le pire culte idolâtre qui puisse exister. Une référence évidemment à Masada, au fait qu'ils avaient brûlé la forteresse. Ça on peut le voir dans Flavius Joseph, dans la guerre des Juifs. Et puis évidemment brûlé, on pense au brûlement par les non-juifs, au brûlement des synagogues. Et comme vous dites, on pense à Worms, Spire, Mayence, enfin surtout la synagogue de... En tout cas, Spire et Mayence, je ne sais pas trop ce qu'ils disaient. Mais à Worms, la synagogue avait été brûlée, du temps de Rachi. Et Rachi, lui, n'avait... Toute la communauté de Troyes avait été préservée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un statut particulier grâce au comte de Champagne. Mais c'était vraiment l'exception. Troyes était l'exception qui confirmait la règle. D'ailleurs, c'est vraiment un microclimat à Troyes, même encore de nos jours. Voilà, bon, je ferme la parenthèse.
Et Ramrout aussi.
Pardon.
Et Ramrout.
Oui, Ramrout, évidemment. Ramru. Enfin, nous, on prononce Ramru chez nous. Mais on peut le prononcer comme on veut. Hein. Ouais. Mais oui, qui était. Enfin, Troyes et les alentours, hein, je voulais dire, hein, bien sûr.
Mais l'idée, c'est que pourquoi la réponse est si radicale et pourquoi on ne leur permet pas justement de pouvoir exprimer cette révolte librement, quitte à eux choisir leur fin.
Non, mais attendez, excusez-moi, mais exprimer librement sa révolte face à des almohades, face à des fanatiques. Non, non, là, le problème crucial du judaïsme, c'est pas celui de se révolter. C'est le fait que... attendez, laissez-moi terminer. Je m'excuse, hein, parce que sinon, je vais perdre un peu le fil. Mais c'est intéressant, hein, c'est bien, vous êtes enthousiaste. Le problème n'est pas celui de juifs qui se diraient « Tiens, il y en a un peu marre de la loi, il faut se révolter contre la loi. » C'est pas du tout ça le problème. Le problème, en fait, c'est qu'ils n'ont plus la possibilité de pratiquer librement la Torah. Et donc, face à cela, comment réagir ? Je vais vous dire, ils n'ont pas spécialement envie de se révolter. On sait très bien comment se terminent les révoltes. Une révolte armée, ça se termine par le sang, ni plus ni moins. Et en règle générale, c'est toujours des pseudo-messies qui se lèvent en disant « Coucou, c'est moi le messie ». Je caricature, mais à peine. Donc, des pseudo-sémessies qui se lèvent. Il y en a eu beaucoup qui se sont levés au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que on était en temps de violence. Et la souffrance et le désespoir étaient si forts que des messies se levaient et ils engageaient la lutte armée. Et face à un arsenal, que ce soit un arsenal musulman ou chrétien, enfin, je veux dire, quand vous avez en face de vous une armée de métiers... Mais votre révolte, c'est impossible. Quand on dit le pot de terre contre le pot de fer, je veux dire, libre à soi, si on veut, peut-être, de mourir en martyr. Mais de là, entraîner toute sa communauté avec soi, entraîner le collectif, non, quoi. La réponse est inacceptable. Donc, c'est pour cela que le rabbin, chef de communauté du Maroc, écrit en désespoir de cause au Gaon de Bagdad en disant « Voilà, nous ne pouvons plus pratiquer librement, comment faire ?» Et le Gaon de Bagdad lui dit « Mais si vous ne pratiquez plus librement et publiquement, eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes plus juif. » Donc on ne lui laisse aucune possibilité, aucune marge de manœuvre d'une pratique un peu plus souple de la loi. Et c'est pour cela que Maïmonide dit « Malheur pour la question !» Malheur, parce que vous n'auriez jamais dû demander à cette espèce de fou furieux qu'est le Gaon de Bagdad, et malheur pour la réponse, c'est-à-dire vous qui avez les yeux malades. Et Maïmonide dit que... Alors c'est très intéressant comment... Alors la réponse, en fait, c'est une réponse littéraliste. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie... Alors c'est très intéressant, il va montrer pendant toute sa lettre, Maïmonide. D'ailleurs, toute la première partie de sa lettre est vraiment très ironique. C'est assez intéressant hein, de la lire d'un point de vue même littéraire. Et il va dire, mais il a une lecture littéraliste de la Torah, c'est-à-dire sans aucune respiration du sens. Les images de la Torah, il les interprète comme du concret, du matériel, alors que c'est imagé, allégorique. Et ça, c'est la première chose. Et en plus, il tronque la Torah. C'est-à-dire qu'il ne prend que les passages qui l'intéressent. Ben oui, c'est pratique. Hein. Et ça, on le voit jamais, nous, hein, si bien chez les juifs que chez les chrétiens, ça n'existe pas. Hein. Dans un prêche, de prendre juste des passages tronqués pour bien mettre en évidence ce qu'on a envie de dire. Et puis le reste, bon, ben voilà, c'est du contexte. Quoi, hein,
c'est la définition même de l'hérésie, puisque le mot hérésie vient de hérésis, qui veut dire choix.
Oui.
C'est ça.
De faire son tri.
Donc
pour Maïmonide. De pas faire le même tri que les autres.
Mais là, il n'est pas qualifié d'hérétique. Hein. C'est pas du tout ça.
Hein. Ce que je veux dire, c'est que le fait de choisir seulement les passages qui vous intéressent.
Là, de présélectionner.
C'est intéressant de savoir ce que ça a donné.
Alors, c'est très intéressant parce que pour Maïmonide, c'est un hérétique qui a la tête. Du pouvoir, voilà. Du savoir légitime d'Israël,
oui.
Et lui-même, en fait, qui est dans la droite ligne, c'est-à-dire celle de l'étude libre, il est considéré, il a failli être excommunié, quoi, je veux dire. Donc, c'est assez intéressant les renversements de perspective. Voilà pour lui comment, en fait, ce rabbin fait perversement le jeu de la politique des Almohades en prenant tout simplement la mort de l'âme ou la mort du corps. Mais il n'y a pas le choix entre les deux. Donc, la mort de l'âme, c'est l'abjuration, et donc une profanation du nom, une profanation de tout, quoi, de Dieu, d'Israël, de tout. Et, ou alors la mort du corps, c'est-à-dire le martyr. Il dit oui, mais vous serez récompensé au paradis. Ben, on entend déjà certains discours qui disent que dans le monde à venir, il y aura 70 vierges pour. Voilà. Donc, pour Maïmonide, il fait le jeu des Almohades. Plutôt, en fait, alors les Almohades, qui eux-mêmes sont des fanatiques, quelque part, de manière très perverse, il est exactement dans la même lignée. Pourquoi ? Parce qu'il est tout aussi fanatique, en appelant à la conversion ou à la mort, tout simplement, en laissant aucune alternative. Voilà pour quelles raisons, et là, Maïmonide, c'est toujours intéressant parce qu'il lit le texte à l'appui, les psaumes, là, c'est les psaumes qu'il va citer, pour bien s'ancrer, en fait, dans la Torah, qui va être sa corde de salut. En suivant l'enseignement de son propre père. Donc voilà ce qu'il dit. Voilà un homme qui n'a rien fait de pareil, révisé mille fois ce qu'il a écrit, mais qui a écrit ces nobles citations comme des formules toutes faites. Il n'a pas pris soin de les écrire au brouillon, puis de les corriger, parce qu'il n'avait aucun doute à propos d'une question sur laquelle il n'était pas nécessaire de revenir. Et il a transmis cette réponse à un homme qu'il a diffusé dans toute ville et région, et il a obscurci avec ses paroles le cœur des hommes. Et là, il cite les psaumes, psaume 105-28, « Il répandit des ténèbres et fit régner l'obscurité. » C'est quelque chose quand même. Hein. Il a écrit ces nobles citations comme des formules toutes faites. En gros, c'est lui qui les a profanées. C'est comme ça qu'il faut lire. Qu'est-ce qu'une profanation ? C'est utiliser un matériau noble pour en faire quelque chose de vil. Donc, la profanation n'est pas dans le fait de pratiquer en privé, mais dans le fait d'obliger à pratiquer en public et donc d'obliger au martyr, alors même que le premier commandement, enfin, pas les commandements dans les 10 paroles, hein. Ouais. Alors que le commandement principal de la loi, c'est de protéger et de protéger la vie, et de sauver la vie. Donc, il y a une phrase du Talmud qui dit...
Tu choisiras la vie, non ?
Tu choisiras la vie,
oui, c'est ça,
toujours. Ouais. Tu choisiras la vie. Et il y a le pendant, c'est qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Et ce qu'on ne dit pas, c'est la suite, c'est qui profane une vie, enfin, qui détruit une vie, détruit l'humanité tout entière. Donc là, il serait plutôt de ce côté-là, selon Maïmonide. Donc, il va, pendant toute la première partie, Maïmonide va montrer, en fait, l'inanité de la réponse de ce rabbin en disant, en fait, qu'il pratique une hérésie, c'est-à-dire de faire des choix de textes qui vont évidemment dans son sens à lui, en les sortant de leur contexte, et en appelant ça de la jurisprudence. Il va dire, je vais aller sur votre propre terrain, et moi-même faire de la jurisprudence. Et il va convoquer de nombreux textes de la Torah pour en fait s'en servir depuis sa propre jurisprudence. Donc c'est la jurisprudence réformée contre la jurisprudence traditionnelle. C'est-à-dire, en gros, tout le projet maïmonidien de réforme de la lecture de la Torah est déjà contenu dans cette épître. Donc ça, je trouve que c'est plutôt...
Mais les exemples qu'il va prendre, c'est pas le psaume, si ?
Non. Alors, non, pas nécessairement des psaumes. Hein, il va prendre surtout du côté des prophètes et même dans l'Exode, dans le Pentateuque et dans les livres des prophètes, principalement, en fait. Donc vraiment de la Torah écrite, hein, il va prendre les exemples, quasiment pas le Talmud, il va surtout citer la Torah écrite. Encore une fois, en l'interprétant selon sa jurisprudence. Jurisprudence contre jurisprudence. Donc en gros, et à terme, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement faire sauter le Gaona. C'est-à-dire que pour lui, à force de se complaire dans leurs commentaires, en faisant des commentaires, de commentaires, de commentaires, de commentaires, on finit par perdre de vue le texte original. Et donc, ce qu'il va, tout son projet, aussi bien du Mishneh Torah que du Guide des Perplexes, ce sera de faire un saut de mouton, c'est-à-dire, en fait, de sauter par-dessus tous les commentaires des Géonim pour retourner au texte original et en faire une lecture personnelle. Plus tard, c'est un peu ce que proposera également Martin Luther, hein, avec sa réforme du christianisme.
Mais il a eu un ennemi, je crois, Maïmonide, c'est Crescas, non ?
Plus tard. Ça, c'est plus tardif. Là, je ne vais pas vous parler de la postérité. Là, je vais parler de Maïmonide lui-même, de cette lettre elle-même. Alors, là aussi, ce qui est intéressant, pourquoi étudier cette lettre dans le DU sur la responsabilité, éthique et responsabilité, parce que c'est une mise en pratique d'une responsabilité individuelle. Encore une fois, la réponse a été donnée par le Gaon. Donc il y a une réponse cachère qui est donnée sur laquelle on ne peut pas revenir. Et Maïmonide transgresse l'autorité légitime et fait une réponse individuelle pour un collectif. Ça, c'est très rare. C'est très très rare, ce genre d'action. Il est tout jeune. Ça se passe, il l'a publié en 1165. Donc vous calculez 1138-1165...
27 ans.
27, oui, il a 27, même pas 30 ans.
Oui, 28 ans.
Donc il commence à se faire un ennemi, il peut pas se faire un ennemi plus puissant, hein. Il commence à se faire un gros ennemi à l'âge de 28 ans. Pourquoi ? Et il dit expressément, parce que c'est le courage qui doit présider à ce type de comportement.
De toute façon, si on respecte la réponse du Gaon, il n'y a plus de communauté juive au Maroc.
C'est terminé, c'est brisé.
Là, vraiment, il n'y a pas de choix.
Alors, il y a quelque chose d'extrêmement pervers dans la... Non, mais vraiment, hein, c'est... De nos jours, on pourrait peut-être le qualifier... En tout cas, il y a quelque chose de vraiment pervers dans la réponse de ce Gaon, parce qu'il s'appuie sur le fait qu'à des moments de l'histoire... Il y a eu une brisure de l'alliance entre Dieu et Israël à cause des péchés d'Israël. Et donc, du fait même que... Alors, il s'appuie sur le fait qu'il y a dans ces moments-là, il y a une brisure de l'alliance. Et donc, il en accuse la communauté du Maroc. Ce qui met la communauté du Maroc dans une situation de contradiction psychologique même. C'est-à-dire que si, en fait, ils ne respectent pas ce que dit le Gaon, alors ils vont confirmer... l'opinion du Gaon, comme quoi il y a bien une brisure. Ils vont confirmer l'hypothèse d'interprétation comme quoi il y a bien eu des brisures dans l'histoire. Où le Gaon pourra dire, vous voyez bien, puisque vous-même, vous avez brisé l'alliance. Vous voyez comment c'est-à-dire que c'est très intéressant d'un point de vue psychologique. C'est le propre même de la perversion. au sens psychologique du terme, hein, qui est en fait de placer une personne ou une communauté dans une situation de contradiction où quoi qu'elle fasse, elle est perdante. Mmh. Et là, c'est ce qu'il fait. Il dit, voilà, je pose comme hypothèse qu'il y a des moments de l'histoire où l'alliance entre Israël et Dieu est brisée à cause des péchés d'Israël. Eh bien, si vous ne respectez pas ce que je dis, vous prouvez par votre exemple que vous avez brisé l'alliance, donc c'est vrai ce que je dis.
Et si vous respectez, vous disparaissez soit en tant que communauté, soit en tant qu'individu.
Et donc ce que je dis, c'est vrai. Donc dans tous les cas, il a raison, mais il a raison dans la destructivité, en brûlant tout. Il y a des gens comme ça, hein. C'est effrayant, hein. C'est vraiment effrayant. Et donc Maïmonide se pose en médecin, il fait des études de médecine, il vient d'achever ses études de médecine. Et il se pose en médecin en disant, mais il faut soigner la communauté des yeux malades de cet homme est malade. Il est malade pourquoi ? Parce qu'il brûle tout. Et c'est lui qui nous place dans une contradiction qui n'existe pas dans la Torah. Il n'y a jamais eu dans la Torah explicitement de brisure de l'alliance. Ça, c'est lui qui l'invente. Mais depuis le fait qu'il l'invente, et bien une fois que c'est dit, c'est fait. Et donc c'est pour cela que Maïmonide va écrire une réponse qui va être une mise en pratique du remède lui-même, par le fait même de rétablir la vérité de la Torah. Et en rétablissant la vérité de la Torah, on sort de ce registre mortifère.
Oui, mais il y a quand même la destruction de deux temples.
Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une brisure de l'alliance. Ce n'est pas pour autant que l'alliance est brisée. Il y a des...
Parce que d'abord, il y a un temple qui était souillé par les Assyriens, après par les Grecs et
d'accord.
Par les Romains.
Mais est-ce que pour autant l'alliance est brisée?
Donc en fin de compte, il y a des prophètes qui ont... pas des prophètes, mais oui.
Alors justement, je me permets, j'avance un tout petit peu parce que l'heure avance.
Par contre, à 9h, on doit partir, vraiment.
Oui, sinon on va être enfermé, vous vous rendez compte? Alors là, ça ne va pas du tout. Hein.
On aura tout le temps de parler, là.
Oui, c'est ça. La nuit de la philosophie.
On va raconter l'histoire en entier.
Donc, en fait, c'est très intéressant, il va composer un quintuple remède. Enfin, son remède, il va dire, cet homme a les yeux malades. Et donc, il faut constituer un collyre. Je sais comment faire, vous savez pourquoi? Parce que j'ai étudié auprès d'Avicenne. Enfin, pas auprès d'Avicenne lui-même, hein, mais auprès des élèves d'Avicenne. Avicenne, qui était c'était le maître de Maïmonide. Un très grand philosophe, il avait une madrassa à Ispahan. Si vous voulez mieux connaître Avicenne, petite parenthèse, je vous conseille, ses livres, évidemment. Mais bon, si vous pouvez pas lire ses livres, il y a un très beau film qui s'appelle The Scientist. C'est un film américain, mais vraiment assez chouette. Et puis, historiquement, pour une fois, plutôt bien fait, avec Ben Kingsley dans le rôle d'Avicenne, et qui présente vraiment la madrassa d'Avicenne à Ispahan. Alors, en français, le nom est horrible, hein. La traduction, c'est l'oracle, ce qui est une bêtise absolue, c'est pas du tout un oracle. Mais voilà, le titre anglais, c'est The Scientist. Et donc, bref. Donc, Avicenne était non seulement un grand médecin, mais sa spécialité, c'était l'ophtalmologie. Et il arrivait d'ailleurs à rendre la vue au niveau de la rétine, enfin, il pouvait en fait reconstituer. Enfin, c'était vraiment étonnant, ce qu'on appelle maintenant de la microchirurgie. Il arrivait lui-même à le faire à l'époque. Donc, enfin, de manière certainement moins évidente, mais enfin, quand même, il arrivait à redonner un peu de vue. Bon. Et donc, Maïmonide dit, à la manière d'Avicenne, je vais composer un collyre pour rendre la vue à ma communauté. Et ce collyre va se composer de 5 ingrédients, donc voici lesquels. Premièrement, comment classer les commandements en temps de persécution. Deuxièmement, quelle est la limite de la profanation du nom et l'étude de sa sanctification. Ce qui va évidemment conduire au troisième ingrédient, qui est l'opposition claire, franche et massive à toute forme de martyrologie, d'étude de cas des martyrs. Quatrième ingrédient, la distinction entre les persécutions passées par les idolâtres et les persécutions présentes depuis un monothéisme généralisé, c'est pas tout à fait pareil. Et enfin, le cinquième ingrédient, c'est lorsque vraiment la pratique est impossible, l'injonction non pas à mourir ou à se profaner, mais tout simplement à fuir ces terres inhospitalières. En gros, pas la peine de devenir hystérique. On peut fuir aussi.
Vous pouvez juste répéter la quatrième différence entre persécutions.
Entre les persécutions passées des idolâtres et les persécutions présentes depuis un monothéisme généralisé.
Et la troisième, c'était quoi ?
La troisième, c'était contre toute forme de martyr.
D'accord, c'est une condamnation générale
de... du martyr. D'accord. C'est ça. Alors, pour la première chose, ça répond, monsieur, à votre question. Votre nom ?
Fourbe.
D'accord. Donc, votre... Comment ?
Vous voulez mon nom ?
Non, parce que c'est plus... plus
oui, enfin... Pierre-André Four.
D'accord. Donc, votre... Donc, pour répondre à votre question, oui, évidemment, l'argument massue de ce Gaon, qui, en fait, n'utilise que les grands boulevards de la Torah et où on oublie, en fait, les petits détails qui, souvent, en fait, sont les plus intéressants. Il dit, regardez, il y a eu des ruptures d'alliance, regardez la destruction des deux temples, et pourquoi est-ce qu'ils ont été détruits ? Parce qu'Israël a péché, parce qu'Israël, ses mœurs se sont relâchées, parce que nous avons vécu de manière idolâtre et immorale, et en général, ce genre de sermon se termine par Sodome et Gomorre, par, voilà, par tout ça. Et Maïmonide dit, il y a eu ces événements. Eh bien, moi, je vais tout simplement vous dire la réponse de Dieu. C'est génial, je trouve, comme... il dit, on va arrêter de lire la réponse des prophètes, et qu'est-ce qu'il en dit, Dieu, lui-même ? Et ça, c'est génial. Et voilà ce qu'il en dit. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce passage. Donc, c'est dans l'Épître sur la persécution, donc page 17-18. Voilà, donc, en gros, effectivement, les prophètes ont condamné avec la plus grande fermeté Israël, qui avait oublié, en fait, qui s'était oublié, hein, tout simplement, et Moïse, Élie et Isaïe. Et Maïmonie dit, mais reprenons la Torah, ils ont été sévèrement punis par Dieu d'avoir osé critiquer Israël. Et donc il va s'appuyer sur des versets, alors je ne les ai pas sur moi, enfin il faudra les reprendre, mais il dit que si... sont punis les colonnes du monde, Moïse, Élie et Isaïe, et les anges du service, même les anges sont punis quand ils osent critiquer Israël, et les anges du service, lorsqu'ils profèrent quelques paroles contre la communauté d'Israël, à plus forte raison, lorsqu'un homme de peu de valeur déchaîne ses paroles contre les communautés d'Israël. Il s'est fait un très grand copain à ce moment-là. C'était grand. C'est, donc vous voyez, il y a un mode analogique. Si les plus grands prophètes d'Israël sont punis, vous, mon pauvre ami, quelle est la valeur de votre parole par rapport à celle des grands sages d'Israël ? Donc d'un point de vue collectif, ça ne tient pas. Et il va surtout rétablir la distinction capitale entre apostasie volontaire et apostasie forcée. Parce qu'il dit, même si, en fait, en cas d'apostasie volontaire, Israël n'a pas été détruit, bah, référence au veau d'or, personne n'a été détruit, malgré la grande colère de Moïse. Et même, d'ailleurs, je vais vous dire, je vais aller plus loin, mais c'est Moïse qui va être puni, puisqu'il ne pourra pas rentrer en terre d'Israël, à cause précisément de sa colère.
Dans l'histoire du
veau d'or. Et les serpents d'airain, il y a eu des morts, à l'époque du serpent d'airain.
Oui, il y a eu des morts, mais tout Israël n'a pas été détruit.
Ah non,
bien sûr qu'il y a des morts.
Non, il y a des chefs qui ont été... Qu'on...
Non, mais peut-être, mais ce n'est pas pour autant exemple, que tout Israël n'a pas été détruit.
Ah oui, mais par exemple, quand les deux fils d'Aaron...
Mais tout le monde n'est pas détruit.
Oui, bien sûr, mais...
Non, mais non, c'est capital. C'est capital, parce que si on dit qu'il y a une rupture de l'Alliance, ça veut dire qu'il y a des moments où Israël n'existe plus.
Oui, c'est déjà arrivé.
Vous voyez ? Donc
c'est
oui,
comme terme de l'Alliance, c'est énorme.
C'est énorme, absolument. C'est ce que dit Maïmonide, c'est absolument énorme. Il peut y avoir des moments d'occultation, c'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte qu'il y a Alliance, mais une occultation qui vient de notre fait et non pas qui vient du fait de Dieu. Et là, ça change tout quand même. Et surtout, il dit de quel droit vous osez parler de rupture d'Alliance, alors même que les grands prophètes eux-mêmes, quand ils ont osé critiquer Israël, se sont retrouvés en porte-à-faux avec Dieu. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième élément, il faut quand même bien distinguer l'apostasie volontaire, où volontairement on laisse libre cours à toutes ses passions, Et l'apostasie sous contrainte, c'est-à-dire que bon ben c'est on est bien obligé de pas pratiquer certains commandements parce que c'est ça ou la mort. Et là pour cela, il va utiliser des exemples célèbres de pratiques secrètes du judaïsme, celles de sages illustres comme Rabbi Meir ou Rabbi Eliezer, pour préserver l'enseignement oral de la Torah orale justement, et qui pratiquèrent avec prudence pour préserver la sagesse d'Israël et la transmettre. Donc, il existe des cas, en fait, de pratiques secrètes, parmi les plus grands sages du Talmud. Pourquoi alors taper sur cette pauvre communauté du Maroc ? Donc, à la tentation de la brutalité de Masada, ou à la violence qui répond à la violence, il va opposer la prudence de certains maîtres du Talmud. Et là, en ce sens, on voit très bien le Maïmonide aristotélicien, pour qui la juste mesure est vraiment une vertu cardinale. Là aussi, juste mesure, j'insiste, c'est souvent ce que je dis en fait à mes étudiants, notamment pas plus tard que tout à l'heure, quand ils m'ont dit oui, qu'il faut ni trop ni trop peu, c'est-à-dire qu'il faut surtout faire profil bas. Et j'ai dit non, c'est tout l'inverse en fait, la juste mesure. C'est pas faire profil bas et s'aplatir. La juste mesure, la prudence ou la tempérance, c'est précisément mesurer sa riposte ou sa réponse. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, où il faut savoir faire une réponse plutôt diplomate, parfois des réponses un peu plus, un peu plus, dans le cas de Maïmonide, un peu plus viril, quoi, disons. C'est-à-dire un ajustement perpétuel. C'est ça, la tempérance, être capable de toujours, d'être capable de s'ajuster. Bon, alors, des fois, on peut peut-être être un peu en colère, donc on peut basculer du côté de la non-tempérance, mais en ayant toujours en tête de rééquilibrer quand même après. Pour pas partir dans, justement, les délires, entre guillemets, du Gaon de Bagdad. Donc, la tempérance n'est pas être tempéré ou être tiède. C'est pas la morale du tiède. Loin de là. Maïmonide est tout sauf tiède. Quand vous lisez quand même ses réponses, c'est pas des réponses d'un tiède, quand même. Donc, ce sont les deux premiers points. Ce qui va entraîner l'impossibilité, de fait, du martyr. Oui. On peut être martyr, mais en même temps, Maïmonide, là-dessus, est très clair dans son troisième ingrédient. Ce n'est pas parce qu'individuellement, on a envie de jouer au martyr que nécessairement, on doit entraîner toute la communauté avec soi. Et là, il fait une distinction entre... Parce que le rabbin, le Gaon de Bagdad, dit « Oui, mais regardez, il y a eu des martyrs dans le judaïsme. » Maïmonide dit « Oui, il y a eu des martyrs dans le judaïsme, mais est-ce que pour autant, on doit généraliser cette pratique ?» Est-ce que c'est la seule pratique possible ? Et là-dessus, je trouve que c'est plutôt... Enfin, sa réponse est plutôt intéressante. Voilà ce qu'il dit. Celui qui est tué pour la sanctification du nom, c'est quoi la sanctification du nom ? C'est le fait de pratiquer publiquement. C'est-à-dire lorsqu'il y a minyan, d'accord ? 10 personnes, 10 hommes. Celui qui est tué pour la sanctification du nom... Même si ses péchés sont comme ceux de Jéroboam, fils de Nevat, et de ses compagnons, il a part au monde à venir, même s'il n'était pas un disciple des maîtres. Donc même un ignorant complet, même quelqu'un qui a fait les pires péchés du monde, qui a une vie licencieuse, qui a fait n'importe quoi dans sa vie, s'il sanctifie le nom, c'est-à-dire que s'il meurt en martyr, alors il a part au monde à venir. Et ça, Maïmonide n'en disconvient pas. Il dit oui, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour le premier roi d'Israël, après la scission avec le royaume de Juda. Il a fait que pratiquer l'idolâtrie, il n'était pas vraiment érudit, c'était plutôt un ignorant. Mais en mourant pour sa croyance, il a sanctifié le nom. Donc il a part au Olam Haba. Certes. Et d'ailleurs, les sages du Talmud disent bien plutôt être tué que transgresser. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par transgresser ? C'est tout là-dessus que ça va se jouer. Mais, et là, l'argument de Maïmonide est très intéressant, il va prendre l'argument de la symétrie. C'est-à-dire, si le martyr effectivement assure la récompense directe du Olam Haba, est-ce que pour autant la transgression doit, par symétrie, être punie ? C'est pas parce qu'on meurt en martyr que nécessairement celui qui ne meurt pas en martyr doit être puni. Vous voyez, enfin, je veux dire, est-ce que pour autant il y a une symétrie d'argument ? Parce que là, en fait, là, Maïmonide dit, alors là, pour le coup, dans la Torah, rien dans la Torah n'indique une quelconque punition pour des actes sous la contrainte ou la peur de la mort. Donc, sa conclusion, c'est que le martyr peut être un choix individuel, mais que le crypto-judaïsme, Parce qu'on peut pas appeler de... on peut pas parler de maranisme encore, hein. C'est oui, pas c'est encore, pas ça n'existe pas encore. Oui. Mais le crypto-judaïsme n'est pas pour autant un péché. Et c'est là, en fait, où il fait tomber l'argument de ce rabbin. Alors, toute la...
Mais comment crypto, c'est
R-Y. C'est R-Y, hein, tout à fait. D'accord. Comme une crypte. Okay. Alors, toute la question est de savoir comment survivre en temps de persécution tout en pratiquant autant que possible. Et c'est là la visée du quatrième ingrédient, il n'y a que cinq, tout va bien, la visée du quatrième ingrédient qui va distinguer les persécutions des temps passés et celles des temps présents. Alors, Maïmonide, là-dessus, est très clair. Il dit, mais dans les temps passés, que les persécuteurs soient des Babyloniens, Perses, Grecs ou Romains, ils exigeaient des actes. Et c'est ça qui vraiment était fondamental. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on exigeait des actes de profanation. Ne pas faire Shabbat publiquement. Ne pas étudier la Torah, ne pas circoncire les enfants, pas tous les enfants, mais ne pas circoncire les garçons, ou enfreindre les lois de la pureté.
Ah. Les lois de la pureté aussi.
Aussi. Ah. Oui.
Donc. Tout ce qui est Arat Amishpacha, tout ça.
C'est ça, exactement, tout à fait. Donc on exige des actes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont idolâtres. Et donc il y a aussi un côté là aussi assez bon pervers, hein, de profaner jusqu'à empêcher, mais c'est la pratique même de tout persécuteur. C'est-à-dire, en fait, on doit bafouer la croyance jusque dans les actes.
C'est intéressant ce que vous dites, juste une petite aparté.
Tout ce que...
Non, alors, le temps presse, c'est ça. Parce qu'en fait, on voit de par beaucoup de divorces que, en fait, les divorces, quelque part, commencent dans le couple quand il n'y a plus respect de Tarat HaMishpacha.
Ah oui, alors attendez, oui, c'est très bien. Maintenant, on va clore la discussion parce que là, on n'est encore pas dans les cas de divorce consenti.
Non, c'est juste par rapport au.
D'accord.
Vous parliez d'enfreindre des lois de la pureté. Et c'est intéressant.
Non, mais les lois de la pureté, c'est autre chose que par rapport au divorce. C'est par rapport au fait qu'on oblige, par exemple, à marier une femme juive à un homme non juif. C'est de ça dont il est question.
D'accord.
Et c'est pour cela que je disais qu'effectivement, dans tous les cas de persécution, notamment de génocide, je pensais au génocide rwandais, eh bien, ça passait aussi par des viols systématiques.
Ah, oui, c'est okay. Certain, parce que dans certains cas, ça a été l'inverse, avec l'interdiction.
Oui, oui. Bien sûr. Mais là, en fait, dans les cas des idolâtres, c'était marier systématiquement des femmes juives à des hommes non-juifs, ce qui fait que, de fait, eh bien, il n'y avait plus de transmission du judaïsme et de la Torah.
Par l'eau, en fait, le fait de se purifier par l'eau.
Non, ça, je vous dis...
Non.
Oui, bah, peut-être, mais là, le problème, c'est un problème concret. D'accord. On est vraiment dans des choses concrètes. Qu'on soit purifié par l'eau ou pas, quand on en est, en fait, à devoir protéger sa vie et son honneur, finalement, quelque part, peut-être que c'est moi qui exagère un peu, mais je pense que ça devient limite secondaire. Ça, dans des cas, en fait, précisément, de profanation depuis des pratiques idolâtres. Maïmonide dit, Dieu merci, de nos jours, on nous demande plus des actes, on nous demande des paroles. Et uniquement des paroles. C'est-à-dire qu'on va pas, les musulmans et même les almohades ne vont pas aller vérifier dans les maisons si Shabbat est pratiqué ou pas.
Ah oui.
Donc on peut quand même continuer secrètement à pratiquer. Ce qui est demandé au Maroc, c'est de réunir toute la communauté dans une mosquée et de dire Allah est grand et Mohammed est son prophète. Oui. Point barre. Et après on passe à autre chose. Donc, alors évidemment, si en fait on considère que toute parole est en même temps un acte,
c'est
dans ce cas-là, il y a profanation. Mais si on distingue la parole de la pensée, dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas profanation. Et je me permets d'articuler ce que dit Maïmonide ici dans cette lettre, à sa définition qu'il va donner dans son guide des perplexes de la croyance. En 1,50, il dit « La croyance n'est pas une parole que l'on prononce seulement, mais une idée que l'on conçoit dans l'âme. »
Ah, c'est
intéressant. Et donc, en disjoignant la pensée de la parole, ça ouvre la perspective d'une possibilité d'abjurer sans abjurer. Et là, je finis un petit peu.
Oui, bien sûr.
D'abjurer sans abjurer, c'est-à-dire, en fait, d'être dans cet apophatisme qui ouvre le sens et qui ne le ferme pas. Et c'est pour cela que Maïmonide ne peut pas être un almohade. Même secrètement, vous voyez. Parce que c'est tout l'inverse. C'est le miroir inversé de la fermeture. Et donc, il dit, voilà ce qu'il dit, nos oppresseurs, c'est intéressant, il dit, nos oppresseurs sont conscients que nous ne croyons pas à ces paroles qui ne sont prononcées que pour nous sauver du roi, pour l'apaiser par des paroles verbales. Donc il dit ce n'est pas pareil du tout. Donc on ne peut pas confondre ce qui n'est pas... Dieu merci, à notre époque, les progrès sont tels que le monothéisme a été propagé dans le monde entier. Donc, quelque part, on a quand même un socle commun, même si dévié, même si compliqué, même si tout ce que vous voulez. Il y a quand même un socle de culture commune qui n'était pas le cas du temps, en fait, des Romains ou des Babyloniens. Donc, je vais terminer sur son cinquième ingrédient, ce qui nous permettra ensuite de discuter ensemble. Il nous restera 10 minutes, c'est ça, pour pas être enfermé dans les locaux.
Oui.
Donc voilà, il n'y a pas besoin de mourir en martyr. Puisque même la persécution est douce. Voilà. Entre guillemets, hein, bien sûr. Mais il dit, par rapport à ce qu'ont vécu nos pères, elle est quand même plus douce. Donc arrêtons de nous plaindre, de pleurnicher. Essayons d'agir plutôt. Depuis, en fait, une réforme de la compréhension, même de la notion même de croyance, de Emouna, qui n'est pas simplement une simple parole, mais qui doit être une conception. S'il n'y a pas conception, la parole est libre. Alors évidemment, après, se pose la question de l'absence, de la difficulté totale de pratiquer. Et ça, c'est le cinquième élément, le cinquième ingrédient du collier. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand, dans les faits, on ne peut plus pratiquer ? Parce que prononcer des paroles du style « Dieu est grand et Mohammed est son prophète », prononcer des paroles qui vont apaiser quelqu'un, c'est comme dire à un petit enfant « Mais tu sais, le Père Noël, il va venir, hein, ça va aller. » J'exagère, mais il y a une sorte de mythe, de fabulation qui permet de la survie. Il dit « Mais le problème, c'est quand en fait, on ne peut plus pratiquer. » Prenons un exemple. L'exemple de Pessard, par exemple. Pour Pessard, normalement, la porte doit rester ouverte.
Ah oui.
Que se passe-t-il si on laisse la porte ouverte du temps des Almohades ? On se fait tuer. Tout simplement parce que là, ils vont voir, n'importe qui peut rentrer et voir tout l'apparat, le céder, etc. Donc, c'est pas possible. Et là, il dit que faire ? Parce que là, il y a profanation. Si dans les actes, il y a quand même profanation. Alors, que faire ? Eh bien, il dit, si vraiment on estime, en son âme et conscience, que on profane le nom, surtout, n'attendons pas la venue du Messie. Parce que c'est ce qui se passait pour les communautés du Maroc. Il disait, ouais, mais le Messie, on souffre tellement, alors que le Messie va venir, il va arriver. Ouais. Et là, compter sur la venue, en fait, d'un être, qui viendrait, comme par magie, tout réparer, Maïmonide dit, ces gens-là, je ne sais même pas comment ils pourront avoir part au monde à venir. Parce que le Messie ne vient pas comme par un coup de baguette magique pour réparer tout, mais il vient pour couronner le travail entrepiqué collectivement. Donc il dit, c'est une erreur fondamentale. Quel est le conseil que je donne alors ? Ce n'est pas le martyr, et ce n'est pas non plus l'abjuration.
Donc le
fuite. Le conseil qu'il donne, ah, vous m'enlevez mes effets, vous.
J'ai
compris
ce que vous avez dit.
C'était ça. Vous avez bien suivi. Donc voilà le conseil qu'il donne. Donc je vais citer ce petit passage. Donc c'est à la page 39-40. Le conseil que je me donne à moi-même et l'avis que je veux donner à moi, à mes amis et à ceux qui me demandent un conseil est qu'il faut quitter ces lieux et aller en un endroit où l'on puisse pratiquer sa religion et appliquer la Torah sans contrainte ni peur. Qu'on abandonne sa maison, ses fils et tout ce qu'on possède, car la religion que Dieu nous a léguée a une valeur immense et ses obligations passent avant toutes les contingences méprisables aux yeux des personnes éclairées, car ces contingences sont passagères, tandis que la crainte de Dieu est permanente. Et c'est précisément cette crainte de Dieu, c'est-à-dire la pratique des commandements. La crainte, c'est pas avoir peur. Hein, c'est la pratique des commandements, le devoir. En fait, le devoir doit l'emporter sur les contingences maternelles. Et quand il l'emporte sur les contingences maternelles, alors vient l'amour de Dieu, c'est-à-dire la pratique de l'étude libre de la Torah que Maïmonide trouvera en terre d'Égypte. Et quelques semaines après avoir publié cette lettre, il va le montrer par l'exemple, puisqu'ils vont tous partir et quitter le Maroc en 1165.
Tous.
C'est-à-dire lui et toute sa famille. Lui et toute sa famille. La communauté, après, la communauté va partir, ils vont suivre un peu l'exemple. Mais d'abord, lui et sa famille. Lui, son père, son frère, et puis, les femmes dont on ne parle jamais, évidemment.
Bien sûr. Bien sûr. On est voilà. Un peu dans le l'air les rats,
là. On est parfaitement dans le l'air les rats. Il dit, suivons le chemin d'Abraham.
Ouais, c'est ça. Il prend la référence.
C'est tout à fait ça, absolument. Suivons le chemin d'Abraham. C'est ça, revenir aux fondamentaux du judaïsme.
Complètement, c'est-à-dire qu'il quitte tout, on dit tu quittes ta terre, tout ce qui t'entoure, et là c'est ça, il quitte ses racines, la terre où il a vécu, pour justement sauvegarder le judaïsme.
C'est tout à fait ça, parce que la terre n'est que matérielle, alors que le devoir, lui, est permanent.
C'est ça.
Oui.
Voilà ce qu'on peut dire.
Merci beaucoup, on est très contents, peu, mais privilégiés, d'avoir entendu quelque chose d'aussi brillant et passionnant. Et Spinoza s'inspira un petit peu de ça,
énormément,
sur la liberté de penser,
oui. Oui,
sur
absolument,
l'interprétation des textes.
Oui. Juste pour situer, Spinoza, c'est plus tard.
Ah oui, c'est plus tardif. Hein.
D'accord.
17e. Aux Pays-Bas. Qui lui-même est fils de Maran. Hein.
Ah, d'accord.
Oui.
Donc, qui va être excommunié, lui, par contre. Enfin bon, il a tout fait pour aussi, hein, mais voilà.
Mais il paraîtrait que c'était... Enfin... C'était dû aussi à... C'était en réaction à ce qu'a fait Shabbatai Tzvi. Parce qu'il avait étonné qu'il avait bouleversé le monde juif. Automatiquement, les gens qui étaient un peu... qui pensaient un peu différemment étaient moins tolérés, quoi.
Oui, il y avait cela. Et puis, en fait, il y avait une autre chose aussi, c'est qu'il a... Il les a provoqués à mort, quand même. Hein. Je veux dire, parce qu'il a eu son copain qui a été excommunié. Ce qui l'a vraiment mis dans une colère noire, et il a tout fait, il allait plus à Shabbat, il pratiquait plus, le rabbin de la communauté est venu le supplier pour ne pas être excommunié, il a dit non, je le serai. Et il y a une lettre qu'il écrit à sa communauté, il était tout jeune, hein. En fait, je pense qu'on fait ça quand on est tout jeune, parce qu'après, on réfléchit un peu quand même. Mais il a dit, mais de toute façon, moi, mon exode à moi, et beaucoup, je pars, moi, la tête beaucoup plus haute que les Hébreux qui sont partis d'Égypte. Et mon pessar à moi, c'est celui de sauvegarder les textes de la tradition juive. Et il se voit dans la droite lignée d'un Maïmonide, en disant, Maïmonide, toi, tu as voulu réformer de l'intérieur, et on a détourné ton propre cheminement de son but premier, puisque tu as été récupéré par la tradition. Eh bien, moi, je ne serai jamais récupérée par la tradition. Et c'est pour cela, en fait, qu'il a rompu, en fait. Donc, il y a quelque chose de très violent chez Spinoza. Mais il y a beaucoup, beaucoup de distinctions philosophiques que Spinoza fait qui sont dues à... Enfin, qui sont des copier-coller de Maïmonide. Par exemple, la distinction que fait Spinoza dans le traité théologico-politique entre la croyance nécessaire et la croyance vraie, ça vient de Maïmonide. Le fait qu'il existe des croyances fausses et des croyances vraies, ça vient aussi de Maïmonide.
Ah, donc il s'inspire quand même de ses
oui,
idées.
Mais
en disant surtout qu'il n'a rien à voir avec ce maître, avec ce chef de file des pharisiens. Alors c'est très drôle, hein, faire de Maïmonide le chef de file des pharisiens, alors que lui-même était un grand réformateur, c'est très drôle. Mais voilà, c'est ce qu'on fait en philosophie, on est des fois un peu débouché. Oui. Après moi le déluge, c'est un peu ça.
Excusez-moi, l'ouvrage que vous présentez là.
C'est le livre que je viens de publier aux étudiants du Seuil.
D'accord. Et en fait, ça reprend un peu
oui.
tout le cheminement que vous avez fait.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui.
Et en France,
c'est la vie.
Pas
ici dans l'université, mais vous le trouverez dans n'importe quelle librairie. Hein.
D'accord.
C'est Maïmonide ou la nostalgie de la sagesse. C'est aux éditions du Seuil. Sagesse.
D'accord.
Et à 8 euros. Voilà. Un petit bouquin.
On a l'impression que finalement, Le Gaon
oui.
correspond plus aux Almohades dans son côté très radical et...
C'est comme ça que Maïmonide le présente.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il était aussi raide que ça? Je ne sais pas. Il avait l'air, c'est vrai que le Gaon de son temps, il avait l'air particulièrement obtus quand même. Il faut que je vous lise un petit passage qui est merveilleux, où Maïmonide écrit à son élève Joseph, à qui il a dédicacé d'ailleurs le Guide des Perplexes, et Joseph... bon, c'est des années plus tard, hein, il est en Égypte, il est un rabbin reconnu, et Joseph le met en garde en disant « Si tu savais, Moïse, on a un gros problème, le Gaon, en fait, en veut à ta peau, quoi. Il veut détruire tes écoles, enfin, jamais physiquement, mais il veut détruire les écoles, parce qu'il y a eu plein d'écoles maïmonidiennes qui sont fondées un peu partout, et il lui dit « Mais enfin, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre lui ?» Et Maïmonide lui répond cette magnifique lettre, « Pourquoi, mon fils, serais-tu offensé par un homme que les gens ont habitué, depuis sa jeunesse, à croire qu'il n'y a personne de sa génération comme lui ? Quand l'âge, la haute fonction, la descendance aristocratique, le manque de discernement des gens de Bagdad et ses relations, tout a contribué pour produire cette conséquence exécrable, Chaque individu est suspendu avec espoir à chaque mot prononcé par l'académie en anticipant un titre honorifique de sa part. C'est pas du tout moderne, ça. Pourquoi t'interroges-tu sur ces mauvais traits qu'il a acquis? Comment, mon fils, pourrais-tu t'imaginer qu'il devrait aimer suffisamment la vérité pour reconnaître ses faiblesses? C'est une chose qu'un homme comme lui ne fera jamais, comme cela n'a pas été fait par des meilleurs hommes qui l'ont précédé. Tout le Gaona, pour lui, est avoué nul et non avenu. Et c'est intéressant parce que, bon, quand il écrit ça, Maïmonide, le Gaona battait déjà de l'aile. Hein.
Il n'est pas la première lettre.
Si, là, en fait, même quand Maïmonide est né, déjà, en fait, du temps de Maïmonide, le pouvoir des Géonimes était beaucoup moins fort qu'un siècle auparavant. Sinon, Maïmonide n'aurait jamais pu écrire ça, il aurait été excommunié. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un siècle plus tard, définitivement, ils n'auront plus d'autorité vraiment factuelle.
Je pensais justement tout à l'heure, en vous étant à la Guénissée du Caire, dont les documents montrent qu'en fait, il y avait des gens qui envoyaient leurs questions, non pas à Bagdad, mais à d'autres grands centres, et particulièrement donc à cette synagogue du Caire, dont je ne sais pas quelle était l'obédience, enfin pourquoi
c'était elle avait le rite. Alors en fait, il y avait plusieurs rites en Égypte. Il y avait le rite irakien, le rite palestinien et le rite karaïte. Et les plus nombreux étaient les karaïtes. Et d'ailleurs, un des grands problème de Maïmonide, lorsqu'il est devenu rabbin en fonction, ça a été d'unifier les communautés, et notamment de réunifier les karaïtes révoltés au reste de la communauté. Alors, il n'y arrivera pas lui tout seul, ça va être compliqué de son temps, mais par contre, son propre fils va réussir. Et vous savez comment il va réussir? En introduisant des pratiques soufies dans la liturgie juive.
Ah oui.
Et il va inventer le piétisme juif. C'est extraordinaire,
c'est
ça.
C'est magnifique. Je crois qu'il va falloir s'arrêter parce que je voudrais.
On va être enfermé.
Oui, et puis je voudrais que vous envoyiez à vous-même l'enregistrement. Je ne sais pas comment on l'arrête.
Alors, attendez.
Et comment on l'envoie?